puissance qui nous dépasse. Et heureusement, Seigneur, heureusement, parce que si ton action dépendait de nous-mêmes, de notre force, de notre intelligence, eh bien jamais ça ne pourrait être suffisant. C'est toi, Seigneur, c'est sur toi que nous voulons compter. Nous te prions de nous apprendre à compter sur toi, à vivre en comptant sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et puis nous prions pour les enfants et ceux qui s'occupent des enfants. Seigneur, qu'il y ait le Saint-Esprit qui leur soit donné, à eux tout spécialement. Amen. Voilà, alors je n'ai pas bien dormi parce que je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'espère que je ne serai pas défaillant intellectuellement pour suivre. Si c'est le cas, vous pouvez me faire un signe. Hein, je ne sais pas, moi, tu me dis, tu me fais des signes si je ne suis pas clair ou je ne sais pas. Voilà. Parce qu'il y a quand même... Moi, j'aime bien prêcher, c'est peut-être parce que j'ai appris les enthousiasmes que j'ai envie de communiquer. Et cette fois-ci, j'ai lu un article que je ne vais pas vous lire in extenso, peut-être faut que je le donne pour le site de l'Église, qui, vous savez, il y a un philosophe qui s'exprime sur les radios, les télés, qui s'appelle Michel Onfray, et puis celui-là, à chaque fois qu'il parle du christianisme, moi, je suis consterné, c'est tellement évident qu'il n'y comprend rien. Il a écrit un livre qui s'appelle « Décadence » et où il constate la décadence de la civilisation chrétienne. Et c'est vrai, dans un sens, c'est vrai, c'est clair qu'il y a en Occident, en tout cas, une civilisation chrétienne qui est en train de se défaire. Et puis, j'ai trouvé un autre article d'un monsieur qui s'appelle Vincent Morche, qui est philosophe aussi. Et j'ai dit « Enfin, un philosophe qui comprend !» Alors, il est peut-être chrétien, sûrement, il est croyant. Je veux dire, pour comprendre l'Évangile comme il le comprend, probablement, c'est que lui-même, il est croyant, mais il sait le dire et il sait répondre à Michel Onfray. Alors, c'est paru quand même dans Figaro Vox Tribune, c'est donc un site d'information sur Internet lié au Figaro. Il y en a eu un écho aussi dans le christianisme aujourd'hui. Et donc, il sait dire ce qu'est le christianisme et pourquoi Michel Onfray, il se trompe, parce qu'il ne le comprend pas. Le christianisme est une religion fondée sur la foi en la résurrection et la divinité de Jésus de Nazareth. Vous saviez ça, hein ? Cette foi est née au seuil d'un sépulcre, d'un tombeau. Est bâti sur des idées qui se situent aux limites de ce qu'il est possible d'admettre. Et donc cette foi n'aura, pour de multiples raisons, jamais cessé d'être agonisante. Je dis, voilà, il comprend ce que c'est la nature de la foi chrétienne. Je ne vous lis pas tout son texte, c'est un texte bien construit, mais ce n'est pas adapté pour une prédication. Mais ce qui nous explique, c'est que c'est inhérent, ça fait partie de la foi chrétienne d'être fragile. Et non seulement la foi chrétienne telle qu'on l'exprime en doctrine, en quelque sorte, la doctrine chrétienne, c'est ce qu'il nous dit. D'où elle est sortie, la foi chrétienne ? Ben, d'un tombeau. Et il y avait un tombeau. Il y avait Jésus, le prophète, l'enseignant, il était dans un tombeau. Et à côté de ce tombeau, voici des gens qui disent... Il est ressuscité. Et comment on sait que c'est vrai qu'il est ressuscité ? C'est à la limite de l'acceptable, c'est au-delà, en quelque sorte juste au-delà du rationnel. Parce que oui, le tombeau, ben oui, il n'y a plus personne dans le tombeau, il n'est plus là, mais alors où est-ce qu'il est ? Nous l'avons vu, mais tout le monde ne l'a pas vu. On est à la limite de l'acceptable, et il y a cette tension qui se fait, cette contradiction entre ce tombeau et la foi en la résurrection, entre un homme, Jésus-Christ, qui certainement était exceptionnel, et puis, oui, mais on nous dit que cet homme, il n'est pas seulement un homme, qu'il est Dieu. Il est Dieu fait homme en Jésus-Christ. Forcément, c'est fragile, une construction comme ça. Pour moi, c'est associé à une image. Il y a une époque où j'ai fait beaucoup d'enterrements, et j'ai un souvenir vraiment précis d'un jour où j'étais dans un cimetière, et puis il y avait la fosse creusée là à côté, et j'ai eu peur de tomber dedans. Et il y avait de quoi, parce qu'il n'y avait plus, il y avait de la boue, bon, il faut faire attention, quoi. Un pas de côté, et moi j'étais là à côté de la tombe, et on me dit, j'étais même dans un drôle d'état, j'ai failli attraper un fou rire à ce moment-là, j'ai dû me retenir, et puis je dis, je suis là à côté d'une tombe, je risque de tomber dedans, puis je vais prêcher la résurrection des morts. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai planté mes pieds là, dans un endroit sûr. J'ai dit, il ne faut pas que je bouge en parlant, parce qu'il y a des risques. Et c'est une image de la fragilité de la foi chrétienne, de la prédication chrétienne. Je vais vous lire un passage qui illustre bien ça, de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, au chapitre 12. Il est connu ce passage, hein. L'apôtre Paul est contesté. Ben oui, lui aussi, il était fragile. C'était un apôtre de grande envergure, un homme de grande envergure qui avait déjà fait ses preuves, qui avait déjà fait de nombreux voyages, créé de nombreuses églises, écrit déjà, c'est la deuxième épître aux Corinthiens, il y avait déjà la première qui avait été écrite avant, et d'autres, ce n'était pas la première qu'il écrivait. Il avait écrit des lettres d'enseignement aux églises que nous lisons encore aujourd'hui. Et cet homme, eh ben, il était contesté dans son temps. Il était fragilisé. Et il dit, faut-il se vanter ? Parce qu'il en vient là, à tel point, les gens disent, oh, Paul, ce n'est pas vraiment un homme de Dieu. Il dit, moi, il faut quand même que je vous dise, quoi. Cela n'est pas convenable de se vanter. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, un chrétien, il parle de lui-même, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ? Je ne sais. Ou sans son corps ? Je ne sais. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. C'est extrêmement frustrant, hein. Moi, j'aurais aimé qu'il les répète, qu'on entende. Oui, mais c'est justement ça, vous savez, cette foi chrétienne qui est à la limite de l'acceptable. Jésus est ressuscité, je le crois, mais je ne peux pas le prouver. Lui, il dit, j'ai entendu, j'ai été au paradis, j'ai entendu des paroles et je ne peux pas les répéter. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai. Dit-il, il parle de lui-même, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Voilà l'autre aspect des choses. C'est que nous sommes des gens là, vivant sur cette terre, et puis nous avons des faiblesses. Je vous regarde, qui n'a pas de faiblesse ici ? Allez, chacun énumère dans sa tête toutes mes faiblesses, de toutes sortes, dans tous les domaines. Oui, oui, on a de quoi, là. On peut en parler. On sait que c'est vrai, là, que nous avons des faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. Voilà, entre ces visions ineffables et entre l'homme avec ses faiblesses, eh bien, il y a quand même un Paul qui doit donner un témoignage avec des actes et de ses paroles, et puis en fin de compte, c'est ça qui compte. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. savez, s'il y a une chose, l'orgueil, c'est la racine du péché. C'est simple. Si le Seigneur nous aime, il va nous garder de l'orgueil. Moi, je suis conscient que certaines choses qui m'arrivent, je pense, ont un sens, c'est d'empêcher que je sois orgueilleux. Et si je deviens orgueilleux, je suis fichu. L'orgueil est vraiment ce qui gâche tous les fondements de l'humanité. Et à l'inverse, l'humilité. L'humilité, c'est la vertu positive par excellence. Et au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voilà où il en vient. À opposer les révélations du Seigneur ineffable et puis ses faiblesses. Il dit c'est nécessaire les faiblesses. Non seulement pour me garder de l'orgueil, mais parce que c'est lorsque je suis faible que la force de Dieu peut se manifester. Il y a un chant qui le dit, c'est le seul chant que j'ai entendu dans les disques du groupe EXO. Chris Christensen, là, le chanteur, il est américain, il écrit en français. Moi, je suis toujours reconnaissant, parce qu'il n'est pas obligé, quoi, en quelque sorte. Il y aurait sûrement plus de succès à faire sa musique en Amérique, où il y a plus de gens pour l'écouter. Mais il vient la faire chez nous, il vient faire des superbes chants en français. Et celui-là, il est en anglais, et puis je lui pardonne, parce qu'il est tellement beau. Il a dû trouver son expression dans sa langue maternelle, et il n'a pas pu faire mieux, je peux le comprendre. C'est ce chant qui dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et en anglais « When I am weak, then I am strong ». Vous l'avez peut-être entendu. « When I am weak, then I am strong. When I am weak, quand je suis faible, then I am strong. Alors je suis fort. When I am weak. » When I am weak, when I am weak, I am strong. Et moi, j'ai apprécié ce petit mot anglais « then », parce que « then », c'est une conséquence. C'est pas « bien que malgré ma faiblesse, bon, je suis fort quand même », comme s'il y avait une opposition entre les deux. Il y a ma faiblesse, « ah, c'est dommage, ça va pas, ça me déchire, ça m'embête, c'est mauvais, c'est négatif ». Mais il y a quand même une force. Mais non, c'est quand je suis faible, c'est alors, comme une conséquence, que je suis fort. Et il le dit bien avec ses quelques mots en anglais. Il dit la même chose que Paul, bien sûr, c'est de là que ça vient. Et puis, il dit la même chose que ce philosophe, c'est là que je vais y revenir. Moi, je voulais vous montrer comment c'est vraiment la parole de Dieu. Il dit « la foi chrétienne ». Elle est sans cesse fragile entre le tombeau et entre ces affirmations fantastiques qu'il y a une résurrection des morts. Sans cesse agonisante, dit-il. Quelquefois à cause de ses ennemis déclarés. Et là, il donne par exemple l'exemple des empereurs romains ou aussi les républicains fanatiques de 1793 qui avaient pour objectif de détruire l'Église. Vous savez, ça n'a pas été drôle. Hein. Moi, j'ai découvert, quand j'étais en Charente, que nous, Français, nous sommes géniaux, nous avons tout inventé, même les camps d'extermination. Pardon ?
Terrorisme vient du mot « terreur » de 1793.
Voilà. 800 prêtres réfractaires ont été mis dans 2 pontons-prison. Les pontons-prison, c'était des vieux bateaux qui étaient échoués sur des vasières. On les entassait là-dedans. Et les documents ont montré que le directeur de cette prison, il avait pour objectif de les exterminer par le manque de soins et manque de nourriture. Et il y en a très peu qui ont échappé. Voilà, c'était pas les millions des camps nazis, mais c'était le principe y était déjà. C'est estomacant quand on le voit. Hein. Quand on voit, voilà, on est géniaux en France. Même les camps d'extermination, on les a inventés. Et c'était pour s'attaquer au christianisme. Ou bien le christianisme aussi, sa fragilité, elle vient de lui-même, il faut le dire, et de ses propres déviances, de ses propres turpitudes. Hein. Le christianisme de la fin du Moyen-Âge, les papes Borgia, c'était quelque chose de complètement dévoyé, complètement. Voilà. L'Église, c'était devenu le pouvoir, l'Église, c'était devenu la richesse, l'Église, c'était devenu tous les moyens pour s'imposer par la force. Oui, il y a eu ça aussi, et donc le christianisme trouve sa propre fragilité et sa propre destruction en lui-même, quand il est fort. Et voilà. Quand il est fort. Quand il est fort et quand il est tenté par l'orgueil. Moi, je dis, on a subi et ça va échouer, heureusement. Moi, je pense que les choses s'acheminent vers la fin. Moi, j'ai vu dans cette dernière période, dans la période précédente, le christianisme évangélique américain qui était fort en Amérique. On estime 30% de la population qui était tout près de la tentation du pouvoir. Moi, je l'ai compris comme ça. Je me suis dit, ils sont forts. Ils ont raison sur beaucoup de points et ils sont tentés de prendre le pouvoir et ils vont échouer. Bon, pour moi, c'est déjà fini parce qu'ils ont déjà échoué. Ils sont en train d'échouer, en tout cas dans ce domaine du pouvoir. Ce n'est pas le vrai christianisme, ce ne le sera jamais. Nous ne gagnerons jamais par aucune force, même pas par la force de la loi. Même pas par la force de la démocratie, c'est-à-dire la loi du majoritaire. Ça ne marche pas comme ça, le christianisme, il est intrinsèquement faible. Il n'est pas censé être autre chose. Et donc, cette faiblesse, si nous la constatons, eh ben, en quelque sorte, elle est pas grave en soi. Le christianisme est né au seuil d'un tombeau et il y demeurera à jamais. Depuis 2000 ans, il ne cesse d'osciller entre le royaume des morts et le royaume des cieux. Moi, j'aimerais aller un peu plus loin et appliquer ça, bien sûr, sur le texte dont je vous lis des passages. Il parle en général de la civilisation chrétienne. Mais parlons de notre civilisation personnelle, de notre vie personnelle. Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation sans cesse de fragilité ? Je dis, chacun pourrait énumérer ses faiblesses et ses fragilités, mais tout dépend comment on est capable de les considérer, nos faiblesses et nos fragilités. Il y a ma petite personne et ses caractéristiques physiques qui ne s'arrangent pas en vieillissant, ses caractéristiques, je ne sais pas moi, de morale, mes études et tout ça, ah là, moi j'en ai fait pas mal, oui mais... On peut mesurer les limites, ces caractéristiques de ma vie de famille, qui a ses quelques côtés de réussite, et puis ses côtés aussi qui vont pas bien. Les caractéristiques de notre vie d'église, elle est solide, notre église, ou elle est fragile? Ah bon, y a pire, je peux vous dire. Je vous vois, là, il y a pire. Il y a des églises qui ont moins belle allure, mais en même temps, On sait les fragilités. Et vous voyez, le christianisme, et puis, bon, alors dans tous les domaines, hein, dans le domaine de votre vie sociale, de votre travail, tout ça, mesurez vos forces et vos faiblesses. Vous voyez, le christianisme est né au seuil d'un tombeau. Voici ce qui nous permet, la première chose qui nous permet, de ne pas se faire d'illusions. Quand je vois mes fragilités, je sais que c'est un danger réel. Je pourrais tomber dans le tombeau. C'est pour ça que moi, j'ai cette image toujours sous les yeux. Il y a la tombe qui est creusée, là, je pourrais tomber dedans. Je peux m'écrouler. Il se peut que je m'écroule pour un problème de santé. Il se peut que je m'écroule parce que ça ne va plus dans ma famille et que crac-boum, les choses s'en vont et se défont. Il se peut que professionnellement, je réussisse et puis à un moment, ça dérape. Il y en a tellement pour qui c'est le cas. Pour qui ça dérape et qui s'en sorte plus. Hein. Il se peut qu'un jour j'ai des problèmes financiers et puis que ça, tout. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être chrétien là-dedans ? Que je ne suis pas fragile ? Si je suis fragile, ça m'apporte que je sais d'où je viens. Je sais d'où le Christ vient, celui en qui je crois. Ça m'apporte que je peux me permettre de ne pas me faire d'illusions sur la réalité des choses, sur la réalité de mes faiblesses et des conséquences qu'elles peuvent avoir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la résurrection des morts. La deuxième chose, c'est que, mais qu'est-ce que je fais quand je me dis, mais ça va s'écrouler tout ça ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais des efforts ? Les bonnes résolutions de début d'année ? Est-ce que je dis, bon, où sont mes forces ? Je vais utiliser mes forces, mes moyens pour m'en sortir ? Mais non, le christianisme, il va au-delà. Il prêche la résurrection des morts, c'est-à-dire l'impossible. Ce que moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas me ressusciter moi-même. Je ne peux pas faire que mes faiblesses soient autre chose que des faiblesses. Mais je peux croire. Et je deviens ainsi, comme il est dit, toujours en tension entre le royaume des morts et le royaume de Dieu. Et dans cette tension, ben, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la foi. Et concrètement, qu'est-ce que ça produit ? Je vais finir juste avec ça. Le christianisme, parce que c'est bien dit quand même, en annonçant un Messie crucifié, voilà, c'est l'un côté des choses, voir la chose en face, il ne joue pas le jeu habituel qui régit la vie des humains. Voilà en quoi nous serons différents. C'est quoi ce jeu ? Celui de la réussite et du pouvoir. Parce que c'est quoi le but dans la vie ? C'est de réussir, c'est d'avoir un peu de pouvoir, un peu d'argent, un peu de succès, un peu d'estime des autres, un peu d'importance. C'est normal, en quelque sorte. C'est ça qu'on souhaite dans la vie. Eh bien non, il ne flatte pas les instincts, il ne surfe pas sur les appétits, il place la révélation ultime du Dieu Tout-Puissant entre la faiblesse d'un nouveau-né et l'effroyable spectacle d'un innocent sacrifié. Il est une religion de faiblesse. Voilà. Et cette religion aussi de faiblesse a la conséquence de rendre les humains libres. Voyez. Parce que c'est tellement pas naturel d'osciller entre ce royaume de la mort et le royaume de Dieu tellement inaccessible que personne n'est obligé. Personne n'est obligé d'y croire. Ça ne s'impose pas. C'est pas forcé parce que ce n'est pas évident. Ce n'est une évidence pour personne. Il faut que je vois le royaume des morts, je vois le royaume de Dieu et je dis oui, je crois. Il y a cette nécessité de dire ce oui, je crois. Et alors, qu'est-ce que produit ce oui, je crois ? Eh bien, il dit, ce philosophe, la conséquence principale, c'est c'est le rejet des fatalismes. Et il dit à l'inverse, l'affaiblissement du christianisme dans nos pays occidentaux produit un retour des discours fatalistes. Parce que dans cette tension entre le royaume des morts et le royaume de Dieu, il y a justement la liberté humaine et la liberté pour Dieu d'agir. Rien n'est plus fatal, même le tombeau n'est plus fatal. Vous savez, les profs de maths, de temps en temps, ils vous font des raisonnements par l'absurde. Il faut se rendre compte à quel point c'est important, cette histoire de mort. Dans la vie, vous essayez de vous débrouiller pour que les choses aillent le mieux possible. Vous vous battez, vous réussissez parfois, des fois vous réussissez pas bien, vous recommencez et tout ça. Pour finir où ? Pour finir dans un tombeau, à mourir ? Eh bien, si c'est le cas, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant, c'est la mort. Quoi d'autre ? Si c'est la fin de tout, si c'est le dernier mot de tout, la toute-puissance, c'est la mort. Et dire, non, le Tout-Puissant, c'est le Dieu de vie, je le crois, Eh bien, vous vous rendez compte où ça vous mène? Ça vous mène à nier même la mort. Ça vous mène à décréter dans la foi que même la mort n'est pas une fatalité. Or, les civilisations anciennes, il dit, les civilisations grecques sont menées par les fatalités. Il cite le modèle des tragédies gréco-romaines où on a des personnages qui sont dans des situations telles qu'on sait d'avance comment ça va se terminer mal, c'est ça la tragédie, et ils se débattent dans toutes leurs contradictions, et à la fin, ça se termine mal comme prévu. C'est la tragédie. C'est aussi, il dit, alors ça c'est intéressant, c'est la même intuition de la fatalité du monde. Pour les Grecs, même les dieux étaient soumis à la fatalité, hein. Pas seulement les hommes, hein. C'est cette même fatalité qui a conduit à l'élaboration des sciences. Ça, c'est fort. Alors. Parce que les sciences, c'est du déterminisme. Les sciences, c'est on vous décortique comment les choses se produisent. Elles se produisent comme ci, comme ça, et pas autrement. Et donc, la conséquence, ce sera ça, et pas autre chose. La fin du monde, ce sera dans 4 milliards d'années, quand le soleil aura fini de brûler son hydrogène et qu'il va passer une autre phase et qu'il va nous tout griller la barbe, s'il y a encore des gens à ce moment-là pour avoir des barbes. Non, ça m'est arrivé une fois d'avoir la barbe grillée par tour de flamme. Ça brûle facilement et ça sent pas bon. Ça, c'était la récréation. Mais la science nous mène à des fatalités et en même temps, heureusement, on en voit les échecs parce que bon, ça marche assez bien pour les maths, justement. Moi, je dis les mathématiques, c'est la seule science exacte parce que c'est une construction qui a sa cohérence en lui-même, en elle-même. Mais dès qu'on applique la science au vécu humain, ça ne marche plus, vous remarquez ? Pardon ? Voilà, à cause du fatum. Oui, à cause du facteur humain, exactement. La politique, hein, on applique des méthodes scientifiques pour des sondages et tout ça, ça ne marche pas. Il est temps qu'on s'aperçoive que ça ne marche pas. L'économie pourtant, comment c'est des chiffres l'économie, comment c'est des sous, comment c'est des choses qu'on peut calculer et qu'on essaye de calculer. Et puis vous remarquez comment ils n'arrivent pas à maîtriser l'économie. Parce que l'économie, en fait, la base de l'économie, c'est les échanges entre êtres humains. Donc, c'est irrationnel. Il ne faut pas croire qu'on est rationnel. C'est ça, l'erreur. L'être humain n'est pas rationnel. L'être humain est à l'image de Dieu. Donc, il ne se comporte pas de manière rationnelle. Oui, quand on applique la science à la politique, à l'économie, à l'histoire, on ne s'en sort plus. Donc, la science, moi, c'est utile. J'aime bien la science. J'aime énormément comprendre. Moi, je lis des blogs de vulgarisation scientifique. Je m'intéresse. Je suis curieux. Donc, je ne vous dis pas de ne pas faire de la science, mais de la remettre à sa place. La science, c'est encore un système de pensée qui nous enferme dans des fatalités et qui, bien sûr, n'a aucune pertinence quand on se met à parler de divinité de Jésus-Christ et de résurrection des morts. Mais où est la réalité ? Dans la science ou dans la divinité de Jésus-Christ ? Dans cette ère du temps... Alors, il faut le dire aussi, au passage. Hein. Attendez, je vais lire le... C'est là que je suis en train de m'endormir, parce que je suis fatigué. Et puis, vous veillez un petit peu, là, une minute, pendant, parce que sinon, si vous dormez aussi, ça va plus aller. Oui, c'est ça, parce qu'il donne des tas d'exemples. Hein. Il dit, on nous conditionne avec des idées dont on nous dit, en fait, en quelque sorte, qu'elles sont des fatalités. On veut nous convaincre que tout est déjà écrit. Voilà, on nous dit que le milieu de notre naissance va conditionner notre vie. Ça, c'est la sociologie. Mon fils, il fait de la sociologie, il va falloir qu'il relativise. On nous dit que la mondialisation est inévitable. On nous dit que le capitalisme est voué à l'échec, que la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne, etc. On nous dit un certain nombre de choses comme si elles étaient inéluctables. Et sans, même parce que ce n'est pas le lieu de discuter ça, de savoir quel est le degré de vérité de ces choses, dire par principe, si je suis croyant, je dis non. Rien n'est inéluctable. Et les choses peuvent se passer autrement. Bon, et la dernière chose qu'il dit, c'est qu'il y a une correspondance entre l'affaiblissement du christianisme et le succès de l'islam, parce que l'islam est un fatalisme. L'islam est un fatalisme. L'islam a un Dieu qui est au-dessus de tout, mais avec qui il n'y a aucun lien, aucune prise. Tout est dit d'avance. Inch'Allah. Et l'un des témoignages les plus forts des chrétiens dans certains pays, c'est justement qu'ils sont, eux, pas fatalistes, là où tout le monde est fataliste. En Inde, en particulier, leur témoignage est remarquable parce que l'hindouisme est une religion fataliste, parce que l'islam est une religion fataliste. Et ces gens qui sont chrétiens et qui sont pauvres, la plupart du temps, qui n'ont pas de moyens, ce sont les premiers, quand il y a une catastrophe, à se décarcasser, à faire quelque chose, à agir, à, autrement dit, à secouer la fatalité en disant, ben voilà, on agit, pas parce qu'on est fort. Justement, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas riches, ils n'ont pas le pouvoir. Pas parce qu'on est fort, mais justement parce que dans notre faiblesse, nous allons laisser émerger la puissance de Dieu pour agir. Alors, la conclusion que je vais reprendre, il dit ceci, n'en déplaise à Michel Onfray, le sort de notre civilisation n'est pas joué. Ouais, c'est un philosophe chrétien, croyant, lui il dit qu'il n'est pas joué. Et tant que les hommes voudront être libres, ils puiseront, consciemment ou pas, à ses racines judéo-chrétiennes. Aux chrétiens, quant à eux, de se montrer dignes de l'héritage qu'ils ont reçu, en témoignant de la capacité de la foi à déplacer les montagnes, à faire advenir la nouveauté qui libère et qui sauve. Qu'est-ce qui nous reste, notre foi à déplacer les montagnes? Rien que ça. Ben, devant ça, si je vous dis, allez, on déplace les montagnes, tout de suite, vous allez dire, mais nous sommes faibles. Ben, vous avez raison. Voilà, on est là, espèce de fou, entre cette faiblesse objective et cette foi à déplacer les montagnes. Et c'est ça, notre témoignage. Ceux qui vont à la marche pour la vie et tout ça, ils sont là pour déplacer une montagne. Vous vous rendez compte. Mais il y a le courage, il y a le refus de renoncer, la capacité à toujours croire. Moi, c'est ce que j'ai reçu pour cette année de la part du Seigneur. Et si tu étais fidèle, il m'a dit le Seigneur, simplement dans tous les domaines, si tu continuais à croire, c'est ça qui va emporter le morceau à la fin. Mais prenez chacun des domaines de votre vie, surtout ceux dans lesquels vous êtes faible. Vous êtes en mauvaise santé. C'est quoi la fin? C'est la mort. Non, je crois, Seigneur. Je crois, je vis, et je vis pas, et je ne vis pas avec mon reste de force. Je vis avec la vie du Seigneur qui s'exprime en moi. Ah, ça va pas dans ma famille. Il y a des relations qui sont mauvaises. Dans la famille ou ailleurs, les relations qui sont dégradées avec qui que ce soit, ça nous abîme la vie. Et comment ça va se terminer? Ça risque de mal se terminer. Vous savez, moi, quand je vois comment, à quel point sont réduites quelquefois les gens, je me dis, mais la société dans laquelle on vit autour, mais à un moment donné, ça va s'écrouler en miettes. Bon, ben, je crois, Seigneur, je crois que là-dedans, il y a la vie de Dieu qui traverse toutes ces choses, et c'est ça la vérité. C'est celle-là, c'est cette vie-là qui nous porte, qui porte le monde. Rien d'autre ne nous porte. Pas le peu de force qui nous reste. Voilà, et puis, 50 plus, ils n'ont pas encore résolu le problème du chômage, et puis ça s'est aggravé. Bon, probablement, dans les 5 années suivantes, ça va s'arranger. Je crois, Seigneur, inventer la nouveauté. Là aussi, inventer des nouvelles manières de vivre. Je me souviens d'avoir c'était des gens qui étaient à la Bège, à Lille. La Bège, donc, qui s'occupe des sans-abri, c'est-à-dire des gens pauvres qui sont au plus bas, les gens qui sont à la rue. Et puis ils étaient à une, un colloque avec des fonctionnaires, avec des gens de l'État, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème du chômage. C'était il y a des années déjà. Et puis il y avait des fonctionnaires qui disaient « Ah ben, il faut que les gens trouvent un moyen de vivre en dehors que par la valeur travail. » Bon, d'abord, c'est des fonctionnaires qui disent ça, et qui se l'appliquent à eux-mêmes pour commencer. Et puis bien sûr, quand il faut inventer une nouvelle civilisation, c'est aux pauvres qu'on demande de le faire. Pourquoi pas aux riches, les riches qui commencent eux-mêmes à apprendre à vivre autrement et puis peut-être à l'enseigner aux autres. Mais non, voilà, c'est les pauvres qui ont plus de travail et on leur dit, bah, finalement, en fin de compte, vous en aurez plus, alors débrouillez-vous, apprenez à vivre autrement. C'est terrible, quoi. Je dis, mais oui, mais qui peut faire une chose pareille, apprendre à vivre autrement? À mon avis, nous. Parce qu'on est croyants. À mon avis, nous. On peut apprendre, et on ne le fait pas beaucoup, hein. On le fait un peu, je pense, on ne le fait pas beaucoup. Hein. Moi, le décalage entre les rêves que j'aurais et la réalité de ce que j'arrive à vivre, et de ce qu'on ne peut pas vivre, parce que l'une des solutions est évidemment communautaire, je dis ça au passage, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, on est tellement individualiste, chacun soi-même, chacun sa famille, chacun sa maison, et les solutions pour vivre autrement passeraient par des vies plus communautaires qu'on n'est pas capable de vivre, même nous, ici, dans l'Église. On n'est pas assez avancé pour ça. Enfin, voilà, moi, j'ai énormément de frustrations, et je les garderai jusqu'à la fin, probablement, parce que ma carrière, moi, se termine maintenant. Il va falloir que ce soit d'autres qui, qui bougent. Oui, mais, et si on croyait que le Saint-Esprit, il est capable de nous faire émerger dans des formes de vie nouvelles qui fera qu'au lieu que ce soit le chaos et la destruction, eh ben, ce sera la vie. Ce sera la vie, et la vie pour tout le monde, pour tous les gens, même ceux qui sont handicapés, même ceux qui sont malades, même ceux qui ont des problèmes qui soient autre chose que des exclus. Voilà. Bref, je suis en train de m'étendre. Est-ce qu'on en est? Vous voyez, si Michel Onfray constate l'affaiblissement du christianisme, il a raison. S'il en déduit sa fin, il n'a rien compris à la foi chrétienne. Et nous, nous devons être les lucides. Voilà. Pour moi, c'est ce que les lucides. Il va mourir. Je suis faible et je crois. Et je vais vivre. Voilà. Je ne sais pas où vous en êtes. Moi, j'ai la tête dans le coton parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Alors, je me rends plus compte vraiment où on en est. Mais j'ai envie de finir une fois différemment de d'habitude. Est-ce que quelqu'un veut prier dans le sens de cette foi, de cette espérance extraordinaire que le Seigneur nous donne ? Vas-y.